CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Et dans ce mag de ce 19 novembre, on va parler abeilles avec Gaëlle Matura, elle est l'animatrice du rucher pédagogique du CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, de Keylus. On va parler de la reine des abeilles, mais avant ça, toujours à propos des animaux, direction le refuge du Rami, la SPA de Montauban.
CFM.
Et direction Montauban dans ce mag du Tarn-et-Garonne, plus précisément au refuge du Ramier, un refuge de la SPA qui organisait habituellement des journées portes ouvertes, des concerts, des opérations papier cadeau. Et sa fête du refuge pour récolter des fonds, là, tout est tombé à l'eau. On en parle avec son employée Agnès. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Vous êtes 7 employés au sein de cette structure, donc la SPA du Ramier, structure indépendante niveau financement. Vous êtes tout seul. Hein.
Tout à fait. Alors malgré le nom SPA que l'on a, les gens font souvent l'amalgame entre nous et la SPA Paris. Nous sommes affiliés à la CNSPA, la Confédération Nationale des SPA de France, ce qui signifie que nous sommes financièrement indépendants. Les dons faits au refuge du Ramier ne sont pas centralisés, ils viennent au refuge du Ramier pour les animaux du refuge du Ramier. Et souvent les gens envoient un chèque à Paris en croyant qu'une partie va nous être reversée.
Mais pas du tout, vous l'envoyez directement le chèque.
Voilà. Du moins si les gens veulent donner à la SPA de Montauban, après ils ont le droit de donner à la SPA de Paris s'ils en ont envie, mais il ne faut pas qu'ils envoient à Paris en se disant que Montauban en bénéficiera. Ça c'est faux.
Vous recueillez, soignez et faites adopter les 600 chiens et 600 chats que vous recueillez chaque année. Un bon paquet quand même.
Ça fait un paquet et après il y a du roulement sur l'année aussi. Ça, c'est gérable parce que ça tourne sur l'année.
Et vous faites comment là en ce moment? Le refuge est ouvert?
Tout à fait, on est ouvert avec une mise en place bien sûr de protocoles sanitaires. Bon, après évidemment la visite des animaux c'est en extérieur. Voilà, c'est surtout au moment de l'adoption et de l'entrée dans le bureau que masque, gel hydroalcoolique, enfin, tout ce qui est préconisé par le gouvernement.
Et avant d'aller les voir, ces boules de poils, vous avez un site internet sur lequel vous avez fait des portraits.
Oui.
Le site internet, c'est www.spa-ramier.fr. Oui. Et il y a d'ailleurs... par ailleurs, eu une petite aide du magazine Socosissime qui parle d'immobilier, de décoration intérieure qu'il a pour l'occasion, parce que vous n'avez pas pu faire vos portes ouvertes ni récolter trop de dons cette année, à lancer un livret digital qui s'appelle Boule de poils, dans lequel on peut voir ces petites boules de poils. Vous êtes vraiment en recherche de d'argent là, hein.
Tout à fait. On avait normalement prévu un concert qui aurait pu rapporter dans les 5000 euros. Les paquets cadeaux rapportent généralement dans les 5000 euros, plus nos journées portes ouvertes, notre fête du refuge. Oui, on est à 12-13 000 euros de chiffre d'affaires en moins.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Et alors, pardon, vous allez faire comment du coup?
Alors, c'est comme on peut. On va peut-être annuler certaines actions qu'on avait prévues. Mais bon, on n'a pas trop envie. Après, on fait beaucoup de travaux. Bon, on a des adhérents qui nous donnent des dons pour faire ces travaux-là. Donc, étant donné qu'on nous donne de l'argent pour ça, on ne peut pas non plus ne pas les faire.
Voilà. Alors, vous parlez après, de travaux reporter, dans les refuges.
On va peut-être reporter un petit peu ce qui n'est pas urgent. Il y a des choses urgentes à faire, des grilles qui sont vétustes par exemple et qui sont source de blessures, ça il faut absolument le faire. On ne peut pas se permettre d'avoir des animaux qui se blessent.
Oui, c'est-à-dire que c'est difficile de renier sur le budget, il y a besoin de nourriture, il y a besoin de frais vétérinaires, enfin, c'est compliqué de...
Bien sûr, on continue à tourner, on continue à avoir des animaux et eux, ils continuent à manger,
ouais.
À avoir besoin de soins, ça c'est quelque chose, voilà, ça ne restera jamais. On n'a pas... un stock qui peut attendre.
Comment ça se passe la SPA quand on veut adopter un chien ou un chat? Comment on fait? Comment on fait?
On vient au refuge. Après, vous êtes pris en charge par un employé du refuge. Après, selon les conditions d'accueil de chaque personne, l'animal recherché, on essaye de réfléchir à l'animal qui pourrait le mieux convenir à la personne, d'animal qui lui plaise, hein, mais qui en même temps puisse correspondre à ses conditions de vie.
Et puis on prend, et puis voilà.
Et puis on prend, et puis voilà.
Il n'y a pas plusieurs visites, quelqu'un qui vient derrière vérifier qu'on ne les bat pas ou tout ça?
Alors, il y a quelqu'un qui vient, il y a des visites après l'adoption. Voilà, pour certains chiens, il y a des visites avant l'adoption, notamment les molosses, parce qu'il y a quand même des conditions de clôture qui sont non négligeables. Mais sinon, on fait plutôt des visites après adoption. On se base pas trop sur, comment dire, si vous voulez, on a placé des chiens à des gens qui avaient des belles maisons, avaient des super jardins, et finalement, le chien, il était dehors dans une niche et il rentrait jamais dans la maison. Enfin, voilà. Et je suis allée voir des animaux dans des endroits moins bien entretenus, disons, et les animaux étaient sur le canapé et tout ça. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas trop comment juger avant qu'il y ait un animal de comment ça va se passer pour lui.
Et c'est
fait aussi attention aux chiens de chasse, par exemple. On ne veut pas que le chien de chasse vive dans un chenil, il sorte que 2 mois pour la chasse et qu'après il retourne dans son chenil. Voilà, ça c'est des conditions qui ne nous conviennent pas.
On est d'accord.
Donc là, on va voir avant.
Et c'est vous, salarié du refuge, qui faites ces visites
Non, ce sont des bénévoles.
Il y a beaucoup de bénévoles au refuge de Ramiers?
Alors, qui viennent au refuge s'occuper des animaux, il doit y en avoir une quinzaine. Et après, on a beaucoup de bénévoles qui font justement ces actions extérieures, qui étaient les paquets cadeaux, les collectes de croquettes, parce que ça non plus, mine de rien, on en a pas eu. Et donc, on a dû acheter des croquettes. C'est un budget supplémentaire que d'habitude, on n'a pas, puisqu'on fait des opérations croquettes qui nous ramènent de la nourriture gratuite pour les animaux. Donc, on n'a pas eu ça aussi cette année.
Il vous faut donc 13 000 euros, vous le disiez en début d'entretien.
On estime la perte à 13 000. Après, bien sûr, on ne peut pas savoir combien on aurait fait au concert, combien on aurait fait au paquet cadeau, mais on se base sur les montants qu'on avait récoltés les années d'avant.
On peut envoyer des dons au refuge du Ramier, et puis on peut venir surtout chercher un chien ou un chat qui vous allégerait financièrement, et puis qui est bon sur tous les plans. Le refuge du Ramier, vous êtes où à Montauban?
Alors, 1772 chemin de la Toge, c'est une route parallèle à la Nationale 20 en partant vers Albias.
Agnès, employée de ce refuge, je vais vous laisser le mot de la fin.
Adoptez, mais réfléchissez. Et voilà. Aidez-nous aussi, si vous pouvez. Il ne faut pas croire qu'on ne donne pas assez. Comme je dis souvent, les gens ils disent « Ouais, mais moi, je peux donner que 5 euros. » Mais 5 euros plus 5 euros plus 5 euros plus 5 euros, ça fait 1000 euros. Donc, on, tout don est bon à prendre. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit.
www.spa-ramier.fr pour ce refuge à Montauban. Un grand merci, Agnès.
Merci à vous, madame. Bonne journée.
Et après la musique dans ce mag, on va parler abeilles. Donc, la reine des abeilles sera dans la chronique Apis mellifera de Gaëlle Métura, l'animatrice du rucher pédagogique, le rucher école de Caylus.
Savoir qui est la plus belle de vous deux, savoir qui est la plus belle de moi, elle est amoureuse, savoir. Mais là, j'en perds la mémoire. Savoir lequel de moi est tendre, est amoureux de toi, la plus belle. Savoir si la plus belle de vous deux est la jambe vers la mémoire. Savoir être capable de toi sur moi, capable de quoi sur quoi. Savoir si après tout tu me gueras, mais la jambe vers la mémoire. Gentil, tu dis que je suis tout le temps gentil, tu disparais, réapparais. Putain, faudrait savoir. Et la jambe vers la mémoire. Et savoir qui est la plus belle de vous deux. Savoir qui est la plus belle de moi. Elle est amoureuse, savoir. Et la jambe vers la mémoire. Et savoir qu'elle est la plus belle de vous deux.
FM. C'est le mag. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Apis mellifera de novembre, où nous faisons un zoom sur une abeille très particulière, la reine. Cette reine, on en entend souvent parler en apiculture. Est-ce qu'elle est vraiment spéciale? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Gaël Matura, bonjour d'ailleurs.
Bonjour Lisa. Oui, je vais vous parler de la reine aujourd'hui sur la chronique. Donc cette reine, c'est un peu l'obsession des apicultrices et des apiculteurs. Ils la cherchent chaque fois qu'ils ouvrent une ruche. Ils observent sa ponte. Ils surveillent son âge, sans d'ailleurs lui fêter son anniversaire, hein, ce qui est un peu vache. Parfois, ils la mettent en cage et parfois, ils la remplacent aussi par une reine plus jeune. La reine est morte. Vive la reine!
C'est très humain tout ça.
Oui, c'est très humain, ramener à un monde d'insectes. Alors cette reine, elle est unique dans la colonie. Elle est issue d'un œuf fécondé. Une fois larve, elle reçoit uniquement de la gelée royale comme nourriture jusqu'à la fermeture de sa cellule le 9e jour. Et la reine adulte en sortira le 16e jour. Et donc c'est cette nourriture extrêmement spécifique, la gelée royale, qui fait qu'un œuf fécondé ne donne pas une ouvrière, mais donne une reine. Alors l'alvéole où a été déposé l'œuf est également particulière, puisque les ouvrières confectionnent une cellule royale très reconnaissable, plus grande. Autant les ouvrières, elles disposent d'une cellule où elles sont très serrées dans leur développement, autant la chambre de la reine est spacieuse. Les larves et les nymphes d'ouvrières se développent à l'horizontale, alors que la reine, elle, se développe dans une chambre à la verticale.
Alors on voit déjà qu'il y a des grosses différences, puisque la reine éclot au 16e jour, alors que je crois me rappeler que les ouvrières mettent 21 jours et que les mâles traînent même jusqu'à 24 jours pour naître.
C'est exactement ça, Lisa. Je vois que t'as bien progressé depuis le début de nos chroniques.
On a un papier sous les yeux, hein, on le dit.
Alors oui, cette reine, une fois sortie de sa cellule, sera la première éclose. Car il faut bien garder à l'esprit que la colonie met toujours en élevage plusieurs cellules royales. Si jamais un problème se produit sur une larve ou sur une nymphe royale, telle qu'une maladie par exemple, les ouvrières ont anticipé et ont préparé d'autres reines. Mais une seule survivra, puisque la première reine s'occupe aussitôt de détruire ses sœurs qui pourraient la concurrencer. Et voilà comment cela se déroule. Si la toute nouvelle reine est bien acceptée par la colonie, les ouvrières vont l'aider à détruire les autres nymphes. Ces nymphes qui sont encore enfermées dans leurs cellules. Et les ouvrières vont lui faciliter la tâche. Elles vont ouvrir ses cellules royales avant terme, en élargissant l'ouverture et en expulsant les nymphes royales pas tout à fait encore achevées. Et la reine va les achever par une piqûre de son dard. Si la jeune reine qui vient de naître en premier est moins bien acceptée par la colonie, elle va devoir se débrouiller toute seule pour éliminer ses sœurs royales. Soit en les piquant à travers la paroi de leur cellule, soit en désoperculant la cellule. Dans ce dernier cas, la jeune reine met plus de temps. Ça lui demande beaucoup de travail, ces assassinats. Et il arrive qu'une autre reine parvienne à naître. C'est alors un combat corps à corps entre les deux reines, où chacune essaie d'atteindre l'autre avec son dard. Et le pire des résultats étant que parfois, les deux reines se tuent mutuellement. La colonie se retrouve alors orpheline, et si elle ne dispose pas d'œufs de moins de 3 jours, elle ne sera pas en capacité d'élever d'autres reines. Je vous donne une petite précision anatomique qui a son importance. Le dard d'une reine est lisse, il n'a pas de barbillon, il peut donc servir plusieurs fois. Et aussi, il est plus long que celui d'une ouvrière. Une ouvrière n'est pas capable de piquer une nymphe à travers les parois de cire d'une cellule. Son dard est trop court, alors que la reine, elle, y parvient.
Alors, l'esprit rock de la vie de la reine, hein, elle a à peine un jour, elle est déjà tueuse en série.
Effectivement, c'est un drôle de début de vie. Mais c'est la condition de sa propre survie, et c'est aussi comme ça qu'elle se garantit d'assurer sa propre descendance. L'agressivité des jeunes reines contre les autres reines est incroyable. Lorsqu'on voit des vidéos, on pourra en voir plein sur Internet, on s'aperçoit qu'elles sont vraiment acharnées sur cette œuvre de destruction. Alors la jeune reine victorieuse, elle est encore stérile. Elle va donc d'abord se nourrir et laisser le temps à ses ovaires de se développer. Elle va acquérir sa maturité sexuelle au bout de quelques jours, entre 2 et 5 jours en moyenne. La reine, une fois sexuellement mûre, va développer ce qu'on appelle un phototropisme positif. En fait, tout simplement, c'est qu'à partir du moment où elle est sexuellement mûre, elle va être attirée par la lumière du jour. Elle s'agite, elle se promène dans tous les recoins de la ruche à la recherche d'une sortie. Une fois sur la planche d'envol à l'air libre, elle entreprend une toilette soignée de ses ailes, de ses antennes. Parfois, elle quémande de la nourriture à une ouvrière, ou même, elle rentre dans la ruche pour n'en ressortir que le lendemain. Elle n'était peut-être pas prête. La revoici le lendemain pour un envol, qui sera un vol de reconnaissance. Toujours une toilette soignée d'une dizaine de minutes avant de partir, puis un envol en cercle concentrique autour de la ruche, pour une durée maximum de 15 minutes. C'est un vol d'orientation qui peut se répéter soit le même jour, soit le lendemain. Une fois que le repérage de son environnement est optimum, elle se lance enfin dans son vol de fécondation qui va lui permettre de rencontrer des mâles réunis en congrégation. Alors, des mâles réunis en congrégation, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a plein de mâles qui volent et qui attendent le passage d'une reine vierge. Ce vol doit être court, le vol de la reine, car il peut être fatal à la reine. Elle pourrait se faire gober par un oiseau ou succomber à un orage et à une pluie violente et glaciale qui la ferait mourir de froid. On en vient à l'accouplement. Alors, l'accouplement, il se fait en plein vol, avec une douzaine de mâles qui lui abandonnent leur organe reproducteur. Bien entendu, les mâles se sacrifient et meurent après. Ce vol d'accouplement a lieu le plus souvent en milieu de journée ou en tout début d'après-midi, là où les conditions météorologiques sont le plus optimum pour la reine d'abeilles. La spermathèque de la reine est ainsi remplie et va lui permettre d'assurer la ponte durant toute sa vie. Elle ne se réaccouplera plus jamais par la suite. Lorsque cette reine revient au bout d'une demi-heure à la ruche, les ouvrières l'entourent et lui prodiguent enfin les soins dignes d'une reine fécondée. La ponte des premiers œufs commence 48 heures plus tard environ, et la reine dispose désormais d'environ 200 millions de spermatozoïdes vivants qui vont être utilisés petit à petit pour féconder des œufs produisant des femelles. Soit des ouvrières, soit des futures reines. Par contre, lorsque la reine pond un œuf pour élever une abeille mâle, elle ne laisse pas passer de spermatozoïdes pour féconder cet œuf.
Et à partir de maintenant, la reine va avoir qu'une seule préoccupation, pondre des œufs.
Et voilà. Alors sa ponte, elle suit un processus répété inlassablement. La reine, qui est entourée de sa cour d'honneur, arrive sur un rayon. Elle commence par plonger sa tête dans une cellule et avec ses antennes, elle palpe la taille de la cellule. Après l'avoir donc examinée, cette cellule, elle se retourne, introduit les derniers anneaux de son abdomen et dépose un œuf. Cette ponte se fait très régulièrement, de manière circulaire. Les premiers œufs disposés au centre et les suivants sont disposés sur la périphérie. Lorsqu'on isole un cadre de couvain dont les jeunes abeilles vont éclore, on peut les voir naître les unes après les autres dans l'ordre même où elles ont été pondues. C'est un peu magique. Alors, un certain nombre de conditions physiques sont nécessaires pour déterminer la reine à la ponte. Il faut un certain degré hygrométrique à l'intérieur de la ruche, et tout spécialement sur les parois de la cire, sur les parois en cire, pardon. Il faut une certaine température aussi. Sur un cadre, ces conditions vont se retrouver à l'identique des deux côtés du cadre. Et donc, lorsqu'on observe le cadre, on s'aperçoit que la ponte est identique de chaque côté de ce cadre. Comme si c'était un miroir, en fait. Alors, une reine normale et normalement constituée pond d'une manière parfaitement régulière. Elle n'oublie pas une seule cellule et ne dépose jamais deux œufs dans la même cellule. Et si on s'aperçoit qu'il y a un défaut dans la ponte, c'est qu'il y a un défaut au niveau de la reine. Alors, dans la même journée, une reine, au moment de la grande ponte, c'est-à-dire au moment où elle va vraiment s'activer très fort sur la ponte, elle dépose une série d'œufs fécondés, qui donc donnent naissance à des abeilles ouvrières, et ensuite, elle pond aussi des œufs qui donnent naissance à des mâles.
Des œufs parthénogénétiques.
Bah, voilà, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'elles font les ouvrières qui constituent la cour d'honneur de la reine ?
Alors, donc la reine, elle est entourée de cette cour d'honneur et on compte environ une quinzaine d'abeilles ouvrières qui vont nourrir la reine avec de la gelée royale en mettant en contact leur langue. Alors, toutes les suivantes de la reine, ben, lui font sa toilette corporelle et l'incitent à pondre en la pressant avec les pattes, avec les antennes, pour qu'elle s'active. En fait, une reine n'a pas vraiment le choix. Elle ne peut pas tellement se reposer. Cette cour d'honneur assure aussi un rôle de protection de la reine. Lorsque on peut avoir, par exemple, un autre insecte qui rentre à l'intérieur de la colonie, à partir de ce moment-là, la cour d'honneur va protéger la reine. Et cette cour d'honneur est constituée d'ouvrières âgées entre 3 et 6 jours. Ensuite, elles changeront de poste.
Pauvre reine, hein, j'ai envie de dire, pardon. Et est-ce qu'il y a d'autres particularités propres à la reine des abeilles qu'il faut connaître ?
Alors, il faut garder à l'esprit que la reine, elle exerce une influence primordiale sur la colonie par le biais de phéromones qu'elle émet. Elle dispose d'un bouquet hormonal d'environ 50 composés chimiques qu'elle peut associer de différentes manières. La phéromone royale, appelée aussi phéromone mandibulaire, parce qu'elle est sécrétée par des glandes au niveau des mandibules, exerce de nombreuses interactions avec la colonie. Cette phéromone royale, elle inhibe, elle arrête le développement des ovaires des ouvrières. Ainsi, les ouvrières demeurent stériles. Puisqu'en fait, une ouvrière, elle est capable aussi de pondre des œufs. Mais c'est des œufs non fécondés. Alors, cette phéromone, elle se transmet lorsque les abeilles de la cour d'honneur lèchent la reine. Et ensuite, ces abeilles de la cour d'honneur, comme elles vont se frotter ou lécher d'autres abeilles, elles vont répandre dans le reste de la colonie cette phéromone. Cette phéromone royale, elle a aussi un rôle d'attrait sexuel auprès des mâles, pendant les vols de fécondation. C'est comme ça que les mâles repèrent avant tout les reines. C'est pas par la vue, c'est d'abord par la captation de ces phéromones. Et cette phéromone, elle joue aussi un rôle dans l'essaimage et elle participe au regroupement de l'essaim. Une fois que l'essaim est sorti de la ruche, pour que les abeilles puissent à nouveau se regrouper autour de la reine, elle capte aussi cette phéromone. Et puis aussi, cette phéromone, elle marque chimiquement les œufs, permettant aux ouvrières nourrices de reconnaître si l'œuf est fécondé ou non. Et enfin, cette même phéromone stimule les ouvrières cirières dans la construction des rayons de cire et leur indique la quantité de cellules d'ouvrières à fabriquer pour équilibrer la population mâle et femelle de la colonie. Donc c'est un véritable équilibre qui se fait entre cette reine toujours au travail et cette colonie qui œuvre pour s'occuper de ses œufs pondus continuellement.
Tout le monde est toujours, tout le temps, au travail dans une ruche.
Toujours.
Et on en reparlera le mois prochain. Merci beaucoup Gaëlle.
Merci Lisa, au revoir.
Et on peut retrouver ce mag en podcast sur le site cfmradio.fr. Salut.